Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici
se lève. Salut Michel.
J'étais un peu jaloux, là.
Comment ça?
Notre chouchou, Michel Girouard.
Oui, ben c'est... Ouais, je...
C'est pas moi ton chouchou?
Ben, vous êtes pas dans la même catégorie. C'est, vous êtes des chouchous différents. C'est...
Tu t'es trompé de nom de famille, Catherine.
Ouais, t'es aussi bien de... Ouais, je trouve que tu patines pas mal.
T'as bien raison. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Tu sais à quel point je t'adore.
C'est rare qu'on est capable de te boucher, mais là, là...
Michel Villeneuve, arrête de faire ton jaloux. Je t'ai déjà dit en ondes et je le redis, j'avais été plus jeune, t'aurais été mon genre. Bon, alors, reviens-en, passe à d'autres choses.
Avant de parler du Canadien, deux choses. Tu parlais des estacades.
Oui.
Je te dirais que pour les gens qui sont jamais allés voir du hockey Midget 3A, je te dirais, moi, que avec le Bantam 3A, où ce sont vraiment les meilleurs là, de leur catégorie, puis tu vois des petits gars, là, tu sais, tu dis, waouh, ils sont donc bien bons, puis le hockey joue comme, tu sais, ils sont toujours au maximum, ils sont en pleine progression, et on dirait que chaque partie pour ces kids-là, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'ils veulent monter, soit dans le junior majeur, soit au niveau universitaire, puis je te dis, ça donne du hockey intéressant, puis c'est des petits gars du coin en plus.
Ouais.
Tu vas toujours rencontrer quelqu'un que tu connais, c'est le fils, c'est le neveu d'un gars que tu avec qui tu travailles. Il y a des liens à tisser avec ces kids-là, puis aller les voir pour le moment, tu sais, où la saison atteint son paroxysme. Manquez pas ça. Honnêtement, là, moi, j'ai connu l'expérience. Mon fils aîné a joué au Midget 3A. Puis c'était le plus beau hockey de notre vie.
Oui, t'as raison, mais tu fais bien de le mentionner.
Deuxième affaire.
Oui, vas-y.
Bobby Orr.
Oui.
Moi, là, il y a toujours un débat dans ma tête. C'est qui a été le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale? C'est-tu Wayne Gretzky ou Bobby Orr? Puis moi, je pense toujours du côté de Bobby Orr parce qu'il a révolutionné le hockey.
OK. Mais c'est ça, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Fait que c'est dur pour moi.
Moi, je suis d'accord avec toi, Michel. Moi aussi, je suis de la génération où Bobby Orr, puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il avait les genoux complètement finis. Là.
Ouais, écoute, là, si ce gars-là avait pu bénéficier de la médecine sportive à ce moment-là, au niveau où elle est aujourd'hui, ça aurait été une pinotte, là. Il aurait été opéré, puis un mois et demi après, deux mois, il était sa patinoire, mais lui, on lui a charcuté les genoux. C'était un joueur extraordinaire. Lorsque, tu sais, il a battu les Russes, là, c'est une patte.
Ouais.
C'est une patte.
Ah oui.
C'était extraordinaire. Il transportait la rondelle. Il était bon défensivement. Il était solide. Il chutait, il gagnait. 100 points. Champion compteur de la Ligue nationale. Tu sais, on ne reverra jamais ça.
Oui, mais c'est
jamais.
Ça. Mais c'est dur pour, je dis, ma génération, ou à partir, mettons, de 40 en descendant, évidemment, on a plus connu l'époque de Wayne Gretzky. Donc, c'est dur quand t'as pas vu jouer quelqu'un, mais je le constate, t'as le même discours. Mon père a ce discours-là aussi, puis tu gardes Serge aussi. Alors, je pense que oui, je pense qu'il faut reconnaître tout le talent de cet homme-là. Ça a bien parti. Le Canadien n'est pas mal joué, mais c'est là que tu vois à quel point il t'a tout un décalage entre les deux équipes, là.
Ah, écoute, je trouve que tu mets le doigt sur le babou ce matin. Lorsque le match a commencé, tu sentais que le Canadien était plus prêt.
Ouais.
Les Pingouins avaient une nuit difficile, étaient rentrés d'un match contre les Rangers. Ça dormait au gaz un tout petit peu. Puis là, tu voyais le Canadien, on s'implantait. On prend l'avance 2-0. On voit Lekkonen qui va se promener dans le terrain de jeu de Brendan Gallagher. Puis il fait dévier une rondelle. Deslauriers, qui est agressif, fait écoper d'une punition à l'adversaire. Le Canadien marque en avantage numérique avec Paul Byron. Mais après ça, hop là, il faut pas grand-chose pour ouvrir la porte à un géant. Et hier, ce qui est arrivé, c'est que le duo Petrie-Riley, qui n'avait rien à se reprocher depuis plusieurs matchs, ils ont fait deux mauvaises lectures en défensive.
Ouais.
Pas des grandes erreurs, mais des mauvaises lectures. Mais la moindre petite faille est exploitée par des joueurs de grand talent.
Ben, c'est sûr.
Et c'est ce que les Pingouins ont fait hier. Écoute, Niemi n'a absolument encore rien à se reprocher.
Non.
Mais tabarouette que les Pingouins ont ce petit quelque chose. Tu sais, hier matin, on en parlait.
Mm-hmm.
On se disait, je t'ai dit, s'il y a une différence, c'est qu'ils savent comment gagner.
Ouais.
Et hier, le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est le quatrième but.
Mm-hmm.
Le but qui a donné la victoire aux Pingouins. Le Canadien, là, est très bien déployé. Je revois la scène encore, là, parce que je l'ai regardé une fois, deux fois, trois fois. Canadien est bien déployé en zone défensive. La boîte défensive est parfaite. Le joueur de centre est au milieu. Les points d'appui sont bien couverts. On laisse de l'espace pour que Niemi puisse voir les lancers qui sont décochés vers lui. Puis à un moment donné, whoop, le mouvement se dessine comme un grand balai. On réussit à créer une petite ouverture. Et il y a deux joueurs qui sont bien placés. Ongves et Malkin. Je pense encore que c'est Malkin qui a fait dévier la rondelle dans le filet. Oui. Mais c'est pas un tête de point. Mais hop, au palais, le Canadien se fait marquer un but. Tu te dis, comment ça qu'ils se sont fait marquer là? Tout a été bien fait sur le jeu. Ouais, c'est la différence entre une équipe qui cherche, puis une équipe qui est en devenir, puis la différence d'une équipe qui est solide et sait comment s'organiser dans les grands moments.
Ben, qui sont champions de la Coupe Stanley, pas pour rien. Michel, je t'explique quelque chose, puis je l'ai raconté en début d'émission. Hier, j'ai partagé mon temps, donc j'ai écouté le match en partie à la télé. Par la suite, je fais toujours le switch avant d'aller dormir. J'écoute Dany et Martin.
Moi, je faisais ça à l'époque, là.
Oui.
C'est ce que je faisais.
Alors voilà, donc avant d'aller dormir, donc là, j'écoute les gars et je n'entends le but de Malkin, je pense que ça faisait 3-2, là, le plomb qu'il a lancé. À la radio, on a entendu le son, même j'ai pensé qu'il touchait le poteau et finalement, c'était un but. Et j'ai aimé Martin qui a dit, Niemi a réagi après que le lancer soit rentré. Tu t'entendais la force du lancer. Ce gars-là, il a un talent exceptionnel. Puis tu sais, il est toujours dans l'ombre de Sydney, hein? C'est ça qui est fascinant.
T'as entendu, bing dans le net.
Oh oui, vraiment, c'était clair, là.
Puis ça a été tellement vite, l'organisation de ce but-là en avantage numérique, mise au jeu, une passe, deux passes, bing dans le net.
Oui. Merci, bonsoir. Hey Michel, je veux qu'on se garde du temps, OK? Je veux qu'on parle de tennis un petit peu, de Félix Auger-Aliassime. Oh, yeah. Est-ce que tu observes la même chose que moi? Moi, j'aime beaucoup le tennis. Là, je suis le tennis depuis des années. Oh, je sais que toi aussi. Ce gars-là fait son petit bonhomme de chemin. J'ai l'impression qu'on pourrait le voir dans le top 20 mondial éventuellement.
Écoute, il y a un talent fou. Évidemment, Denis Shapovalov est passé devant lui parce que ce sont deux bons amis, deux jeunes qui ont progressé au même rythme. Et tous les experts me disaient que Félix était en avant de Shapovalov. Mais une blessure est venue le ralentir. Et la magie Shapovalov s'est exercée. À un moment donné, il y a un déclic. Cette occasion qui s'est produite lors du tournoi de tennis de Montréal, les gens sont tombés en amour avec lui. Ouais. La confiance s'est installée. Puis là, le voilà parti pour la gloire. Dans le cas de Auger-Aliassime, blessure, réhabilitation, puis, tu sais, il y a des machines, des diesels, puis il y a des machines sportives. Je pense que dans le cas de Shapovalov, là, c'est une Corvette.
Oui. Mais dans écoute, le cas de
Auger-Aliassime, là, c'est une grosse Mercedes berline. Prend du temps, à diesel se met, tout, tu sais. Tout a de l'air à bien se préparer.
Ouais.
Puis là, il y a une occasion extraordinaire que ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Le petit gars a l'occasion de côtoyer le plus grand joueur de tous les temps, Félix Auger-Aliassime, avec Roger Federer.
Ouais.
Et ça ne lui assure pas de connaître une carrière phénoménale. Sauf que dans son processus, alors qu'il grandit, il a l'occasion de côtoyer le meilleur.
Mm-hmm.
Et y a-t-il un meilleur exemple dans le sport que Federer?
Non, il n'y en a pas.
Il fait tout bien.
Ouais.
Puis il le fait à sa manière. Auger-Aliassime a raison de dire, je peux pas copier Federer. Il faut que je trouve une façon, comme il l'a fait lui, de pouvoir grandir, de pouvoir m'améliorer et de pouvoir m'épanouir avec mon tennis.
Ouais.
Et là, lorsque Federer le garde, on dit, là, hey, les gens ils comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Je lui sers de partenaire d'entraînement. Je vais te donner une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines à peine.
Mm-hmm.
Je suis allé au tournoi de Delray.
Ouais.
Et à Delray, c'est un petit stade. Puis où les joueurs s'entraînent, il n'y a même pas de clôture. Tu es assis sur le banc, là, puis la balle te passe à 3 pouces du nez.
On est en Floride, là, juste pour replacer les gens. Ouais.
Puis je suis allé voir les pros s'entraîner. Puis là, je me disais, c'est qui le gars l'autre bord qui s'entraîne? Avec... Je voyais les frères Bryan, j'ai vu Shapovalov s'entraîner. Là, je parlais à Martin Laurenteau, je me disais, attends, il dit, c'est important la qualité du gars qui est de l'autre côté. Parce que lui, là, Auger-Aliassime, lorsqu'il s'entraîne avec Federer, là, il retourne les revers de Roger.
Ouais.
Il retourne les balles brossées. Donc, il voit comment il se comporte parce que l'autre doit travailler.
Mm-hmm.
Tous les petits aspects de son jeu qui vont lui permettre dans les heures qui vont suivre de gagner son match.
Absolument.
Fait que là, tu pratiques à un haut niveau. C'est comme un joueur de hockey qui joue pas tout à fait, un joueur de 18 ans qui joue pas tous les matchs, mais qui s'entraîne contre les meilleurs. C'est sûr qu'il va s'améliorer.
Mais c'est clair.
Mais lui, c'est pas contre. Puis au hockey, parce que tu vas jouer contre 5, t'es dépendant d'autres joueurs. Mais au tennis, là, c'est toi tout seul. Lorsque Roger t'envoie la balle brossée sur le bord de la ligne, là, vas-y, puis retourne-la, parce que si tu ne le retournes pas, tu seras pas là comme partenaire.
Ben non, mais c'est clair. Et sais-tu quoi, Michel, en terminant, Serge m'a encadré le bout de l'article du Journal de Montréal le plus intéressant ce matin, puis il est ailleurs, là, on le retrouve dans la presse plus également. Il dit ouais. « Heureusement, j'ai une bonne équipe autour de moi pour me conseiller. Je sens un engouement à mon endroit, mais je dois garder les pieds sur terre parce que, bon, il dit, je suis classé 169e au monde. » Ça nous fait penser beaucoup à Eugénie, hein, qui n'a peut-être pas le même ouais. entourage. J'ai l'impression qu'on parle d'un jeune homme de 17 ans qui est bien « groundé ». Je m'excuse de le dire comme ça. Puis ça, c'est rassurant.
Il est bien « groundé » puis prêt à écouter.
Oui, c'est ça.
Attendu que Eugénie, ça a été tellement vite.
Oui, il y a ça, là.
Ça a été tellement vite que tout le monde s'est emballé. Mm. Je ne connais pas personnellement les parents d'Eugénie Bouchard, puis je ne connais pas personnellement non plus les parents de Roger Eliassim. Mais je regarde son parcours académique, entre autres. Mm-hmm. C'était tout un étudiant à Jean-Eudes. Tu sais, il avait toutes les qualités, le petit gars-là. Il est parti de l'ancienne Lorette, puis ouais. là, ça a travaillé. Puis là, lui, c'est l'équipe de Tennis Canada qui fait un sacré bon travail pour développer les jeunes, puis il est demeuré avec eux autres.
Ouais.
Il est toujours avec la gang de Tennis Canada. Moi, je trouve que c'est la façon, de pas de remercier, mais c'est la façon d'apprécier le travail de ceux qui t'ont permis d'atteindre
absolument.
Là. Puis s'ils ont vu tes qualités, ils ont réussi à les développer, mm-hmm. ils sont encore capables de le faire.
Ouais.
T'sais?
Ah oui.
Puis c'est pour ça, ils l'encadrent, il y a beaucoup de monde, il y a des gens extrêmement qualifiés là-dedans. Mm. Et surtout, tu l'as dit, les deux pieds sur terre.
Ben, c'est ça. Hey Michel, je te souhaite une excellente fin de semaine. On s'en parle lundi.
OK, Bob. En tout cas, va voir ton chouchou, là, puis on s'en parlera lundi. Bye-bye.
Tu vas me rater ça longtemps.
Oui, t'es pas sorti du bois, toi. Bye-bye.
Salut, Michel. Mon chouchou, Michel Villeneuve, qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur lundi matin, 7h40. Ça va bien, la jalousie de mes chroniqueurs.